Oui, alors on me demande de baisser légèrement la lumière. Mes intervenants vont baisser légèrement la lumière qui est un peu forte. Ce sont des philosophes, ils sont habitués à la pénombre de l'étude, pardonnez-les. Alors, merci à tous d'abord d'être aussi nombreux et dans ce festival, les Utopiales, au cœur de ce festival, en ce samedi, en début d'après-midi. Alors, une table ronde encore qui sera sans doute passionnante et extrêmement prestigieuse, voilà. Sur la science-fiction, est-elle un laboratoire philosophique? La science-fiction, un laboratoire philosophique, la question que nous allons examiner. Alors, pour examiner cette question, nous avons des philosophes, des auteurs, et puis, eh bien, quelqu'un qui est inclassable et qui outrepasse ces différentes catégories, et qui est Alessandro Jodorowsky à mes côtés. Alors, je commence donc par Alessandro Jodorowsky. Bien évidemment, je ne vous le présente pas, vous l'avez déjà entendu pour ceux qui étaient là en début de festival. Non, pas de problème. À côté, nous avons Pierre Bordage, vous le connaissez très bien aussi, et puis c'est le président des Utopiales, en plus d'être un auteur et un acteur important du milieu de la science-fiction. Vous le savez, son œuvre est particulièrement marquée par l'impact de la religion et des mythes sur les comportements et l'évolution des sociétés. Il nous parlera aussi de son rapport à la philosophie en tant qu'auteur. Et puis nous avons à côté deux philosophes, on pourrait dire d'un côté deux créateurs, de l'autre côté deux penseurs, mais en réalité ce serait réducteur. Deux philosophes, donc d'abord Sylvie Allouche, qui a été d'abord l'organisatrice d'une manifestation très importante qui s'appelait les journées ou le mois de la science-fiction à l'École nationale supérieure. Et puis en 2006, et avec Simon Bréon et bien d'autres personnes. C'est une philosophe, elle est doctorante à Bristol actuellement, et elle a travaillé notamment sur l'amélioration du corps et le rapport de la philosophie au corps. Et elle s'intéresse évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup à la science-fiction. Elle participe aussi aux journées interdisciplinaires de Péresque. Et c'est quelqu'un de très actif dans le milieu et avec laquelle, tout à l'heure, nous avons eu un joli débat, un embryon de débat, en tout cas sur Platon, peut-être on y reviendra tout à l'heure. Et puis enfin, tout au bout, vous l'avez déjà vu ce matin si vous étiez là, David Morin-Hullmann, qui est professeur de psychosociologie ici à Nantes, et qui s'intéresse en particulier à l'anthropologie de l'innovation. Il travaille donc, il fait partie de ces philosophes, tout comme Sylvie, qui ne font pas le choix entre la science et la philosophie, mais qui justement utilisent leurs compétences de philosophes pour jeter des passerelles vers la technique et comprendre l'impact de la technique sur la société. J'ai vu d'ailleurs qu'il s'intéressait aussi à certaines cochonneries sociologiques sur sa page. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Alors, pour lancer mes intervenants, j'ai demandé que l'on projette, je ne sais pas si c'est possible, une image pour changer un petit peu. Voilà. Alors, si vous voulez bien regarder cette image, de quoi s'agit-il? Il s'agit du laboratoire de Tycho Brahe, qui s'appelait Uraniborg sur l'île de Ven, et qui avait été financé par le prince du Danemark. Et je voudrais vous mettre en avant ce laboratoire parce que l'époque à laquelle il intervient, c'est le XVIe siècle, c'est la Renaissance, et c'est le moment où justement la philosophie se réinvente aussi à la lumière de la technique. Et tout ça, c'est aussi le moment où la science-fiction, petit à petit, va trouver ses racines les plus significatives. L'élève de Tycho Brahe, Johannes Kepler, écrira le Somnium, et qui est considéré, que l'on peut considérer, même si Francis Valéry, qui est quelque part par ici, n'est pas forcément d'accord, comme l'une des sources de la science-fiction. Alors, dans cette question, la science-fiction est-elle un laboratoire philosophique? Et dans votre pratique, dans votre rapport à l'imaginaire, on va entendre science-fiction au sens large, est-ce que d'abord vous considérez tous les quatre que le mot « laboratoire » est un mot pertinent? Le laboratoire, c'est un lieu fermé, c'est un lieu à l'abri du monde, c'est un lieu dans lequel, certes, on va faire des expérimentations, mais où le chercheur, où celui qui réfléchit, va s'enfermer. Et ça me pose cette question-là, est-ce que finalement, c'est le bon terme? Est-ce que finalement, la science-fiction ne serait pas plutôt le signe d'une ouverture philosophique? Alors, c'est la première question que je leur pose, est-ce que c'est un laboratoire fermé? Est-ce que le mot est maladroit ou est-ce qu'au contraire un laboratoire peut être ouvert? Voilà, ça c'est une première question auxquelles peut-être ils vont réagir. Et puis l'autre question, c'est que les philosophes qui se sont intéressés à la science-fiction sont nombreux maintenant. Les liens entre la philosophie et la science-fiction ont été quand même largement déjà présentés. Il est pratiquement clair pour beaucoup, beaucoup de monde que la philosophie nourrit la science-fiction. Mais l'inverse est peut-être encore à démontrer. Et la question que je poserai aussi, en particulier aux philosophes et aux auteurs, c'est est-ce que c'est une simple récréation dans ce laboratoire ? Est-ce que l'on se contente de s'y amuser ? Ou est-ce qu'il y a dans cette science-fiction les possibilités ou les moyens imaginaires, bien sûr, de réinventer, d'aller au-delà de la connaissance philosophique ? Est-ce que c'est juste un divertissement ? Ou est-ce qu'on peut, par la science-fiction, aller au-delà des grandes réponses que la philosophie se pose depuis la philosophie grecque ? Voilà. Alors, qui veut répondre en premier ? On va peut-être commencer par les philosophes, d'accord ? Et puis on fera parler les auteurs après. Alors, David, peut-être, ou Sylvie. Sylvie, ce serait très bien. Allez, le mot laboratoire, et puis...
Alors, pour ce qui est du laboratoire, alors c'est vrai qu'apparemment, tu es un petit peu troublé par le côté enfermement du laboratoire. Mais si on regarde la démarche du scientifique... qui, pour construire ses théories, en simplifiant beaucoup, s'appuie sur le réel, donc s'appuie sur des faits. Il y a essentiellement deux sources. Il y a la nature, telle qu'elle se déploie sans intervention extérieure. Et donc, il s'agit d'observer comment ça se passe. Et puis, il y a des situations que l'on construit artificiellement pour pouvoir examiner comment ces lois de la nature se déploient leurs conséquences dans des circonstances qu'on ne peut pas observer dans la nature. Donc c'est en ce sens-là que je pense que le terme de laboratoire, pour parler de la science-fiction, de laboratoire d'idées philosophiques, hein, pour parler de la science-fiction me paraît justifié dans la mesure où il s'agit effectivement de faire des expériences. Alors après, ça reste une métaphore. Donc c'est une métaphore qui a un certain nombre de limites. D'abord, dans le vrai travail expérimental du scientifique, la répétition, la répétabilité joue un rôle très important, alors que, disons, quelqu'un qui écrirait exactement le même roman qu'un autre romancier de science-fiction serait très très mal vu. Donc il y a plutôt l'idée dans le laboratoire philosophique que constitue la science-fiction, l'idée de la variabilité. Et donc ce qui distingue d'ailleurs la science-fiction des autres types de littérature, ce qui va faire le mérite d'une œuvre de science-fiction, c'est, alors soit il y a des idées transcendantes, géniales, auxquelles personne d'autre n'avait pensé, mais plus modestement, on peut avoir un bon livre de science-fiction, sans qualité littéraire, d'écriture particulière, mais parce qu'il fait une petite variation sur une expérience de pensée, sur une mise en situation qui existait déjà. Voilà, donc pour ce qui me concerne, j'oublierais le côté claustrophobique éventuellement connoté par le terme de laboratoire pour le retenir. Moi, il me paraît justifié.
D'accord, merci Sylvie. Peut-être David ?
Alors pour reprendre, donc en fait Tycho Brahe et ce que tu as dit juste avant, ça me faisait penser évidemment aux Médicis qui donnait également de l'argent aux artistes pour exister. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, technique sans financement et il n'y a pas non plus de culture sans économie de la culture, sans économie tout court. Donc en fait il y a une dialectique ou des contradictions, vous utilisez le vocabulaire que vous voulez. Ça c'était la première chose que je voulais dire par rapport à ce que tu avais souligné. La deuxième chose c'est donc de définir laboratoire. J'abonde évidemment, et j'ajouterais peut-être le côté un peu sociologique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un laboratoire ? C'est un endroit aussi, plutôt la question est qui est celui qui cherche ? Celui qui cherche, eh bien, c'est celui qui concentre son corps et concentre son esprit. Donc en fait, il a un rapport de discipline à son corps et un rapport de discipline à son esprit. C'est-à-dire qu'il va se concentrer, il va essayer de comprendre des choses en allant dans le texte. Et ça m'a fait penser à un passage, tu étudieras la Torah jour et nuit. Donc c'est-à-dire qu'on doit se concentrer pour essayer de comprendre ce qui est derrière l'écriture. Et puis la troisième chose, si je puis y répondre aussitôt, c'est la récréation. La SF comme récréation ou comme autre chose. Eh bien, je crois qu'il y aurait j'avancerai deux choses. D'abord, la science-fiction comme un médium, un outil, un miroir, d'une définition sociologique, c'est-à-dire que toutes les œuvres parlent du moment où elles ont été écrites. Donc, puisque toutes les œuvres parlent d'un moment où elles ont été écrites, il faut étudier ces œuvres pour comprendre ce qu'était ce moment. Et puis une autre façon de voir aussi la science-fiction, avec un monsieur qui était peut-être un des plus grands philosophes de la science-fiction, qui est décédé prématurément, qui s'appelle Guillardreau. Et lui, Guillardreau, disait que la science-fiction était à la science ce que la gnose était à la théologie. C'est-à-dire qu'il y a de l'ordre d'un essai de connaissance, et que peut-être la science est... À la fois, on dit que la science est très rationnelle, que la science, c'est la rationalité même, mais c'est peut-être aussi quelque chose de beaucoup plus archaïque, la science. C'est peut-être quelque chose qui va avec la magie. Et d'ailleurs, certains anthropologues comme Marcel Mauss ont bien montré que les techniques et la magie, c'était la même chose.
Oui, merci David. C'est bien aussi d'avoir pensé à... J'espérais qu'on le ferait aussi hommage à Guillardreau, hein, qui a été aussi l'un des grands défricheurs de cette question des rapports entre la science-fiction et la philosophie. Alors je me tourne maintenant vers nos créateurs, vers ceux qui vont polliniser le monde de nos représentations comme ça, avec des images, avec tout ce qu'ils ont apporté, qu'on ne peut pas résumer. En tant qu'auteur, Pierre Bordage, Alejandro Jodorowsky en tant que cinéaste, en tant que scénariste, en tant qu'inventeur génial de tout un tas d'éléments. Alors quand vous créez tous les deux, l'un répondra après comme vous voulez. Oui. D'abord, quand vous créez Alejandro... La place de la philosophie, est-ce que des lectures philosophiques antérieures interviennent? Est-ce qu'on oublie
attends,
tout
attends, de quoi on parle?
De la création.
Voilà. On parle de science-fiction. La science cherche la réalité absolue. La fiction cherche la irréalité absolue. Alors il y a deux choses. Qui est pareil à la science-fiction? Mon cerveau. Mon côté gauche, c'est la science. Mon côté droit, c'est la fiction. Entre science et fiction, je fais de l'art. On est en train de parler d'art. On n'est pas en train de parler de philosophie ici. Alors, la philosophie n'a rien à voir avec la science-fiction. La science-fiction a un monde à soi. Alors, dans la science-fiction, qu'est-ce qu'on appelle laboratoire? C'est parce qu'un roi imbécile fait un laboratoire, on va nous parler de laboratoire. C'est une monstruosité faire un laboratoire de science-fiction. C'est une réalité faire un laboratoire de science. Parce que qui est le scientifique? Quelqu'un qui se croit réel. Et comme il se croit réel, il va chercher la réalité dans ce qui n'est pas réel, que c'est la réalité. La réalité est infinie, indéfinissable. Elle est impensable. Alors, on n'est pas... Un créateur artistique va travailler avec l'intuition. L'intuition n'est pas réelle. L'intuition, c'est tout un monde de rêves qui n'a pas de limites. L'artiste ne se définit pas comme un être réel. L'artiste se définit comme un fou. Un artiste, c'est un fou qui fait une œuvre. Un scientifique, s'il est fou, ce n'est pas un scientifique. Est-ce que je suis clair? Vous comprenez la différence? Alors, quel est le laboratoire d'un fou? Soi-même. Quand je fais un laboratoire, c'est mon cerveau, je rentre profondément dans moi-même. Et je veux savoir qui je suis. Pas seulement qui je suis, sinon quelle chose je suis. De quoi s'agit-il? Comment je suis construit? Qu'est-ce que c'est cette machine? Et cette machine n'a pas seulement des paroles. Les mots, ce n'est pas la chose. Il a des sentiments. Des émotions qui ne sont pas à moi. Elle arrive du cosmos. J'ai des désirs, j'ai des besoins. Et j'ai la création de quelque chose de mystérieux que j'appelle conscience. Alors, le laboratoire, vous savez, là, ici, un laboratoire. Il est ici, pas un scientifique, pas un fou, un artiste, qui est en train de se trouver soi-même. Voilà comment je vois la chose. Je peux me tromper et je m'excuse.
Alors, ni science ni philosophie pour Alejandro. Et pour Pierre?
Moi, c'est difficile de passer après Alejandro Jodorowsky. Merci du cadeau. J'aurais dû passer parler avant, excuse-moi. Moi, c'est mon rapport à l'écriture qui définit les choses. Je suis entièrement d'accord avec Alejandro, c'est-à-dire qu'il s'agit d'intuition. Et que quand je pars dans un récit de science-fiction, je voyage sur mon intuition. La chose qui m'importe à moi quand j'écris un roman, ou que je me lance dans une aventure imaginaire, c'est d'éviter tous les systèmes de pensée. Il me semble que la philosophie sont des systèmes de pensée qui se rajoutent les uns aux autres et qui font appel effectivement à un cerveau que tu as appelé droit ou gauche, je ne sais plus.
Le cerveau gauche, il a la raison.
Voilà, donc le cerveau de la raison. Et il me semble que la philosophie, alors peut-être que mes amis philosophes pourront me contredire, ce sera très bien, fait appel à la raison et qu'effectivement, en tant qu'auteur, je fais appel presque uniquement à l'intuition. Et effectivement, comme le dit Alexandro, je m'excuse de répéter ce qu'il dit, mais je suis d'accord avec lui, donc c'est un peu emmerdant. Je suis un laboratoire moi-même, je m'explore moi-même. Et plutôt que de parler de laboratoire, d'ailleurs, j'ai envie de parler de terrain d'exploration. C'est l'écriture pour moi, mon fil d'Ariane, qui m'emmène dans mes labyrinthes intérieurs où je découvre des choses qui m'étonnent parfois, qui m'horrifient parfois, qui m'enthousiasment parfois. Et j'ai l'impression que ces choses-là qui sont de moi, finalement, où l'écriture m'emmène, je les puise quelque part et je les ramène à la surface qui est l'écriture et je l'offre à quelqu'un qui est de l'autre côté, qui s'appelle un lecteur, comme un éclat d'humanité que j'ai été chopé quelque part et que j'offre à un lecteur. Parfois, c'est peut-être pas très beau, donc le lecteur est peut-être un peu horrifié, mais voilà. Donc, c'est vraiment, pour moi, l'écriture, c'est une plongée dans mon inconscient. Alors, peut-être c'est ça l'intuition. Et c'est de ramener des choses de cet inconscient sous forme d'écriture en essayant d'être le plus ouvert et le plus libre possible. Il y a vraiment une quête de la liberté dans l'écriture.
Non, Alejandro va répondre.
Est-ce que vous permettez que je réponde au monsieur le philosophe?
Oui, merci.
Comment s'appelle ton nom?
David. Mauvais signe. Hein.
David, non, je ne veux pas. Ça, c'est pas de critique, mais tu as dit une chose intéressante. Tu as dit que la création, c'est la science-fiction scientifique, a besoin de quelqu'un qui donne les moyens économiques. C'est ça que tu as dit, tu vois? Et là, tu touches un problème intéressant. Tu touches que les puissants, l'Église, les rois, les politiciens de l'époque ont mis la patte sur les penseurs et sur les créateurs. C'est pour ça que Fra Angelico fait un ange ridicule avec une perruque de Marilyn Monroe et avec des ailes d'oiseau et ses lançations à Marie, tu vois. Un ange. C'est incroyable, non? Il a des ailes, il a une perruque. C'est comme un transvesti. Je rien contre, non? Mais c'est parce que l'Église a déterminé que l'expression, c'est ça. Et si tu changes l'expression, je te tue. Et Galilée, Pursimobile et tout ça, l'Église, les puissants, les scientifiques ne peuvent pas penser librement parce que s'ils pensent d'une autre façon que l'État, ils le tuent. Il a eu 6 millions de femmes brûlées par l'Inquisition. 6 millions! Et ce n'était pas des femmes laides, c'était des belles femmes. On les a brûlées parce qu'elles étaient belles, pas parce qu'elles étaient laides. Bon, alors, cette histoire d'être payé par l'État, d'être payé par l'industrie, au fond, c'est une prise de pouvoir sur nous. Et dans ce moment merveilleux, on est en train de faire la rébellion. Parce que le pouvoir, c'est l'électeur. Moi, j'ai fait une œuvre, s'il y a des lecteurs, j'ai pas besoin de puissants. Maintenant, tous les jeunes créateurs de cinéma sont en train de demander l'argent aux gens par Internet pour financer ces films et s'en sortir du pouvoir de l'industrie puissante. Et s'en sortir des personnes qui disent « Tu ne peux pas penser comme ça, tu ne peux pas faire ça, il y a cette morale. Si moi je vais enculer un éléphant, je l'ai fait. » Oui, je l'ai fait. Pensez-tu. Et je dis un éléphant, pas un éléphante. Pensez-tu. C'est la liberté avant tout. Tu vois? Et même l'homme n'a pas encore appris à penser avec liberté. Même les philosophes ont été prisonniers. Alors, quand est-ce que les philosophes vont se libérer d'être produits? Quand est-ce que les philosophes vont se libérer de l'université? Que c'est un autre système de puissance qu'il faut faire exploser. C'est plus possible que la pensée sorte de l'université. C'est plus possible. Alors, il faut faire une union de les deux cerveaux. Intuition, l'intuition, voilà les philosophes, et voilà les fous. Je suis entre les deux, les corps cagés, tu vois. Alors, pourquoi la science-fiction est formidable? Parce qu'ils vont vers la science, les écrivains. Tu vois, ils disent, il y a ça, avec ça, ils vont inventer ça. Alors, ils détruisent la science. Les livres de science-fiction, ça va contre la science normale. Il l'ouvre. Il examine des possibilités d'idées, possibilités cérébrales. Il casse la logique. Et il y a un précurseur qui est lié dans le monde des arts. N'est-ce pas? Le monde des arts. Vous connaissez à cette époque ce livre, Le monde des arts. Oui. Alors là, il parle de la sémantique non aristotélicienne de Korsivski. Vous voyez que c'était inventé. Et après, non, c'était un personnage qui existait. Ils m'ont montré qu'il casse toutes les lois de la logique aristotélique. Non, on va vers de nouvelles positions. Bon, alors, fini. On dit en mathématiques que pour un point distant d'une recte, peut passer un seul parallèle. Euclide. Riemann. Pour un point distant d'une recte, ne peut passer aucun parallèle. Lobachevsky, pour un point distance direct, il peut passer à infinit parallèle. Ah là, je suis un philosophe. Je ne me laisse pas dire que les parallèles ne se trouvent jamais. Dans l'amour, les parallèles se retrouvent. Merci.
Alors, merci. Merci beaucoup. On va faire répondre les philosophes, parce qu'ils sont un peu attaqués, là. Ils sont un peu attaqués, quand même, ces philosophes prisonniers du pouvoir, payés par l'État, incapables de penser là. C'est presque ce dont on vous cible tout à l'heure. Alors, allez-y, allez, défendez-vous.
Alors, je vais commencer.
Vas-y.
Alors, première chose, je pense, il y a différents types de science-fiction. Et c'est vrai que moi, la science-fiction à laquelle je m'intéresse, qui n'est pas forcément celle où œuvre M. Jodorowsky, c'est une science-fiction qui est plutôt côté ce qu'on appelle hard science et qui est plus particulièrement sensible, d'une part, à s'attacher à la science telle qu'elle existe et, d'autre part, à une cohérence intérieure de l'histoire. Maintenant, on peut écrire de l'excellente fiction ou même de l'excellente science-fiction qui joue avec ces possibilités de cohérence. Mais je pense quand même que le discours, s'il n'est pas poétique, doit d'une façon ou d'une autre, s'il est narratif et s'il n'est pas poétique au sens de la poésie, est contraint, et là je me fais aristotélicienne justement, dès lors qu'on parle, on est contraint, même si on lutte contre ça, même si on est nietzschéen, on est contraint par la nature même du discours à respecter une certaine cohérence et donc une certaine rationalité. Sinon, on peut écrire de la poésie, et je trouve ça fantastique, ou on peut peut-être écrire avec des mots qui ne sont pas des mots, et peut-être que ça n'a pas encore été, on n'a pas encore été au bout de ce genre de possibilités-là. Mais il y a quand même quelque chose dans le roman réaliste, qui est la matrice de l'écriture de science-fiction, des principes de type rationnel qui sont à l'œuvre et qui sont particulièrement importants dans la science-fiction. Alors là où je rejoins mes deux compères écrivains, c'est qu'effectivement, ce qui, moi, m'intéresse en tant que philosophe dans la science-fiction, c'est justement qu'à mon sens, la science-fiction, et là, en fait, je réponds à la deuxième question que tu posais. En fait, moi, c'est mon sujet, c'est ma question de recherche. Est-ce que quand on trouve qu'il y a de la philosophie dans la science-fiction, hein, typiquement Matrix, tout le monde a découvert que la science-fiction pouvait être philosophique, ou beaucoup de gens ont découvert que la science-fiction pouvait être philosophique à travers Matrix, est-ce que la science-fiction le peut uniquement de façon récréative, c'est-à-dire en présentant de façon distrayante des questions métaphysiques profondes qu'on retrouvait déjà, par exemple, chez Descartes, dans les méditations métaphysiques, ou bien est-ce que dans la substance même du texte narratif qui raconte des histoires à travers des personnages et en particulier à travers la subjectivité des personnages, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, et c'est mon hypothèse et la réponse vers laquelle je me dirige, et même, j'irai même plus loin, c'est la thèse que j'essaye de défendre, qu'il y a dans le fait même de passer par des subjectivités et des histoires quelque chose qu'on arrive à saisir de philosophique, qu'on n'arrive pas à saisir parce qu'il y a de l'émotion, notamment, qu'on n'arrive pas à saisir quand on se contente, comme on le fait traditionnellement en philosophie, d'aligner des arguments. Voilà. Donc je pense que c'est justement moi, en tant que philosophe, ce qui m'intéresse, c'est que le texte narratif, ou plus largement la fiction, est effectivement un niveau de rapport au monde ou de discours sur le monde intermédiaire qui réincorpore en particulier l'élément émotionnel qu'on n'arrive pas à bien saisir quand on fait de la philosophie plus traditionnelle et argumentative.
D'accord, donc ce serait vraiment un élément, plus qu'une simple récréation, beaucoup plus en réalité, un élément constitutif, enfin un outil vraiment philosophique, un outil philosophique.
Moi c'est ce que j'essaye de défendre, c'est ce D'accord. que j'essaye d'expliquer à mes collègues philosophes, c'est qu'il y a dans la narration, dans le texte narratif, qu'on arrive dans des textes de science-fiction, notamment parce qu'elles sont au long cours, notamment parce qu'on partage la subjectivité de personnages auxquels on s'attache, avec qui on partage des émotions, pour lesquelles on a de l'empathie, on arrive à atteindre un type de philosophie qu'on n'atteint pas quand on fait de la philosophie traditionnelle D'accord. argumentative type Aristote,
D'accord.
que j'adore par ailleurs. Pour...
Alors peut-être si David, tu veux intervenir pour, je sais pas, ou parce qu'en fait ce qu'on est en train de dire, enfin c'est ce qu'on est en train de dire, c'est finalement la philosophie, enfin si je suis bien, hein, la philosophie gagne à utiliser l'émotion, mais pour l'instant on n'a pas encore montré que l'émotionnel, que l'intérieur, l'inconscient ait besoin de la philosophie. Et comme cette science-fiction est entre les deux, finalement, elle est une sorte de passerelle, une sorte de zone franche. Il faudra que je réponde tout à l'heure sur l'université, hein, mais tout à l'heure peut-être, est une sorte de, c'est pas à moi de répondre, une sorte de zone franche. Est-ce que ce serait ça? Est-ce que ce serait cette espèce de terrain intermédiaire, un peu nébuleux, un peu incertain, aux frontières un peu mouvantes, dans laquelle se retrouveraient libérés de leur carcan mutuel et les philosophes et les artistes?
C'est-à-dire que historiquement, hein, si on regarde disons, l'apparition de la philosophie avec Socrate puis Platon, il y a vraiment une opposition entre comment convaincre autrui, hein, comment faire que les gens à qui on s'adresse changent d'avis. Il y a globalement deux modes, la persuasion qui passe par l'émotion et la conviction qui passe par la raison. Et dans la philosophie, l'usage de la conviction qui passe par la raison est pensé comme libératrice parce qu'elle n'est pas manipulatrice. Alors que si on est un artiste talentueux, on va pouvoir transmettre, en manipulant les émotions, toutes sortes d'idées à l'insu même des personnes qui sont réceptrices.
D'accord. Alors...
Oui. Et donc le pari, enfin moi ce qui m'intéresse dans la science-fiction, donc en renonçant à l'émotion, malheureusement on renonce quand même à quelque chose, et ce qui est intéressant dans la science-fiction, c'est d'essayer de trouver une espèce de nouveau contrat raison-émotion qui permette de réincorporer l'émotion mais sans courir le danger, les dangers que font courir la pure et simple persuasion.
D'accord. Pour
Oui. Oui, alors, il y avait trois choses aussi. C'était autour le pouvoir, l'amour, la folie, la création, et puis ce que j'appellerais le progressisme de l'Occident. Alors donc, l'amour, la folie, la création, je vais vous laisser le droit d'en parler, et puis moi de me taire. Et en revanche, autour du progressisme de l'Occident et du pouvoir. Évidemment que la philosophie appartient au pouvoir, évidemment qu'une grande partie de l'art appartient au pouvoir, et c'est pour cela que nous aimons le pouvoir et lutter contre le pouvoir. Car justement, il y a quelque chose. S'il n'y avait rien, nous ne pourrions pas nous définir par rapport à cette chose qui n'existerait pas. Donc, quand le pouvoir est là, nous pouvons le critiquer, et quand l'art est là, nous pouvons... Enfin, quand les arts sont là, nous pouvons les critiquer. S'il n'y avait rien du tout, on ne pourrait pas les critiquer. Donc, on ne pourrait pas exister face à cela, un peu comme un enfant face à son père et à sa mère. La deuxième chose, c'était autour de l'Occident et du progressisme dans l'Occident. Le progressisme de l'Occident se trouve, il me semble, dans le tiret. Je l'ai déjà dit ici, mais j'espère que vous n'êtes pas nombreux. Le tiret de science-fiction, auparavant ça s'appelait scientifiction, etc. Mais le tiret entre science et fiction, ça nous donne justement un pont où il y a un rapport entre le saisissement du monde, qui est donc la technique et le pouvoir, ou le pouvoir et la technique, et puis un dessaisissement du monde, ce dessaisissement du monde dont vous faites partie. Et le dessaisissement du monde, c'est sortir de son être. Ça peut s'appeler la création, ça peut s'appeler tomber amoureux, évidemment là c'est l'amour. Sortir de son être, c'est-à-dire donner son être à autrui, fall in love, tomber dans l'amour. Et puis il y a également donc la folie, qui est une façon de sortir de son être. Donc là, il y a ces trois points. Mais je voudrais ajouter une chose que j'aime quand je parle de l'Occident et du progressisme dans l'Occident, c'est que c'est l'Occident qui donne la méthode pour détruire la méthode. C'est l'Occident qui donne la littérature pour détruire la littérature. C'est l'Occident, en fait, qui, évidemment, se critique lui-même. Et c'est là où l'Occident a je pense, un petit peu d'avance sur peut-être pas des galaxies, enfin des extraterrestres, mais à une ouverture contre les obscurantismes, qui est une forme de pouvoir également.
D'accord. Alors, réponse d'Alejandro ou peut-être de Pierre aussi.
C'est très intéressant, hein. Mais c'est pas l'Occident simplement. Moi, j'étais 5 années avec un maître zen que j'ai trouvé au Mexique en japonais. J'ai médité, j'ai approfondi, je crois, modestement, profondément dans les zen. Et les zen détruit tout ce que tu dis, hein, avant l'Occident, bien avant. Il détruit même les concepts de Dieu, tous les concepts. Il dit qu'il faut donner des pas dans le vide. Tu vois? Alors, il y a quelque chose qu'il faut expliquer. J'essaie, non? On considère dans notre civilisation occidentale que l'homme, c'est la parole, ce qu'on dit. Et tout se passe dans les dits, dans ce qu'on dit, on critique, on dit, on parle. Mais profondément, et la poésie et la méditation cherchent le silence mental. C'est-à-dire, moi, je suis une mentalité vide comme un ciel bleu, et les idées, ce sont des nuages qui passent, qui ne sont pas moi. Je ne suis pas mes idées. Elles passent à travers mon vide mental. Bon, ça, c'est la parole. Mais moi aussi, j'ai un cœur, ça veut dire, j'ai un événement émotionnel que c'est aussi un portrait du monde. Et j'ai aussi une espèce d'animalité, sexualité, créativité qui agit avec des désirs, qui bouge aussi, que c'est un autre portrait du monde. Et je suis incarné dans ce corps, alors ce corps-là va indiquer des besoins que ça va être le marxisme, si tu veux, une autre vision du monde. Tu peux mettre la philosophie dans le corps, tu peux trouver le marxisme, le marquis de Sade, tu le mets ici, ici tu mets le Christ, et ici tu mets Euclide et tout le reste, Descartes et tout le reste, la philosophie. Mais en parlant de science-fiction, dans les voyages dans le temps, il y a des voyageurs qui vont vers le passé, ils tuent un insecte, et quand ils reviennent, toute la civilisation a changé. Ça, c'est un thème classique de ces écrivains de science-fiction. C'est-à-dire que si on modifie un détail du passé, tout le futur est changé. Qu'est-ce que le danger de la pensée quand c'est dirigé, quand on la dirige et on ne la laisse pas se libérer? C'est que l'idée que je mets dans mon mental va changer ma vie émotionnelle, ma conception de l'amour de l'autre, va changer ma vie sexuelle et mes désirs, et ma vie créative, va changer ma vie quotidienne. Tu n'as que voir ce que Staline a fait de la Russie, avec ses conceptions matérialistes. Alors, il faut faire bien attention que la réalité, ce n'est pas les mots. Les mots, ce sont des fichiers qu'on lance, mental. Mais il y a une autre façon de capter la réalité. Moi, j'ai un ami, Vignot, qui est un maître de karaté, un maître zen, il n'est pas zen, c'est un français. Tout sa vie n'est fait que se battre, le karaté. Mais à travers ça, il a devenu un sage. À travers son corps, c'est un sage. Chaque fois, il y a des leçons différentes. Une fois, il m'a fait un geste comme ça, et m'a montré les différentes attaques de lesquelles il se défendait. Et c'était infini, les coups qu'il pouvait recevoir avec un seul geste. Comme une idée peut recevoir des infinis autres idées. Les sentiments peuvent ouvrir des voies infinites vers l'amour, vers la haine, vers ce que tu veux. Alors, moi je pense qu'il ne faut pas se autodéfinir. Je ne suis pas fou, je ne suis pas artiste, lui ils ne sont pas des philosophes, pas d'étiquette. On est en train de chercher ce que c'est un être humain. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Est-ce qu'il y a un moi? Première question qu'a fait Bouddha. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de moi. Ça, c'est la base du bouddhisme. Est-ce qu'il y a une autre vie après l'amour? Là va venir la réincarnation et tout le reste. Est-ce qu'il y a le paradis? Le Christ et tout le reste. Et quand on parle de Socrate, non? C'est un vieil grogne que faisait que des questions. Et il démontrait qu'avec les questions, il pourrait te faire changer complètement ta vie parce que tu ne savais pas quoi répondre. Mais en réalité, dans la philosophie, d'un mot, on ne peut tirer que des mots. Il y a des concepts qui proviennent des mots, et ce sont des mots. Il y a des autres concepts qui sont la somme d'expériences que tu as fait pour avoir les concepts. Alors, à un philosophe, je lui demande avant tout que, comme lui, je suis très content, qu'il a des chaussures de sport, tu vois. Je n'avais jamais qu'un philosophe ait ces formes de chaussures, tu vois. C'est un boxeur, un déportiste. Alors, je lui demande que les philosophes sachent manger. Il a une véritable diète pour sa santé. Je demande que le corps soit protégé, que le sexe soit satisfait. Si ta sexualité n'est pas satisfaite, tu ne peux pas penser. Tu ne peux pas penser. Alors, Sylvie Jean, la vie sexuelle des professeurs d'université. Moi, j'ai vu un pape qui s'est incliné comme ça, tu vois. Tellement. Parce qu'il n'avait pas une papesse. Alors, ça change la religion même, tu vois. Tu vois ce que ça produit, les curés qui n'ont pas de femmes. Oh là là. Il faut envoyer tous nos enfants avec un tampon dans l'anus à l'école, tu comprends? C'est pas possible. Alors, ça change les émotions. Si je n'aime pas, si je n'ai pas connu l'amour, parce que ça existe, l'amour sublime existe. J'ai mis des années jusqu'à ce que je l'ai connu, mais ça existe. Parce qu'on trouve, en effet, pour se trouver avec l'autre. Si je ne sors pas de moi, à toi et à nous, bon, tout ça, c'est la philosophie pour moi. La philosophie, ça englobe tout. Et dernière chose que je veux dire, moi, je suis contre les généralisations. On parle de la science-fiction. Il n'y a pas la science-fiction. Il y a des bons hommes qui écrivent un bouquin comme ils peuvent. Et s'il se dit, je suis écrivain de science-fiction, il est mauvais. S'il dit, je suis un romancier, il est bon. Il ne faut pas se autodéfinir. Et un livre avec l'autre fait la science-fiction. Un surface peinte avec un autre fait la peinture. Mais ça n'existe pas la peinture. Ça n'existe pas la sculpture. Ça n'existe pas la philosophie. Lao Tse, c'est un vieillard de mon âge qui a écrit un petit livre pour les portiers de la muraille de Chine. Et c'est le plus grand philosophe que j'ai trouvé dans ma vie, un petit livre comme ça. Alors, est-ce que c'était un philosophe? Non, c'était un être qui essayait de vivre dans sa vérité. Bon.
Bon, on peut... Difficile de... Voilà. Voilà une belle confession faite avec l'amplitude et le cœur. Et sur le... Oui, l'indivisibilité et l'inexhaustibilité de l'être humain, finalement. Pourquoi le diviser entre le corps et le cœur et l'esprit et tout ça? Et alors... J'ai envie de faire réintervenir les philosophes, mais j'ai envie aussi que le public, on va continuer nos débats. Il y a Pierre, peut-être si tu veux rajouter quelque chose aussi tout de
non,
suite.
C'est mais... par rapport à ce que vient de dire Alexandro, et par rapport aux étiquettes et aux définitions. Et évidemment, le genre science-fiction est défini par les livres de science-fiction, dans les collections de science-fiction. Mais évidemment, quand on écrit un livre, on n'est pas auteur de science-fiction, on est un romancier qui joue avec les mots. Donc c'est sûr que, heureusement que je ne suis pas auteur de science-fiction, parce que déjà, je me fixerais des limites. Et mon propos à moi, quand tu as parlé du mental, mon propos à moi quand je suis en train d'écrire, c'est d'essayer d'avoir le moins de mental possible. Il y a cette maxime du Tao qui dit qu'une fois l'œuvre accomplie, l'auteur s'efface. Et j'essaie de m'effacer au fur et à mesure que j'écris un livre, parce que je pense que ce que pense mon mental, ou mes constructions de pensée, qui s'enchaînent sans arrêt avec d'autres constructions de pensée, ne font pas de bons romans. Ce qui fait le bon roman, c'est l'exploration totalement libre, donc le plus l'éloigné possible de tout ce qui est mental et construction de pensée. C'est à ce moyen, enfin à ce titre-là, je pense qu'on peut vraiment écrire des romans. C'est une exploration totalement libre, hors effectivement genre, parce que ça n'existe pas. C'est juste après qu'on dit que c'est... Quand j'écris mon premier livre, c'est Les Guerriers du silence, où il y a toutes ces notions-là de qui suis-je, comme Ramana Maharshi, je ne sais pas si tu connais Ramana Maharshi, un philosophe indien, qui pose sans arrêt la question de qui suis-je, d'où vient ce jeu, quelle est la source de ce jeu. Et je pense que l'auteur, c'est ce qu'il essaie d'explorer, c'est la source de ce jeu. Et quand j'écris Les Guerriers du silence... Je suis parti dans un space opéra qui est vraiment un genre spécifique de la science-fiction, qui est même le genre représentatif de la science-fiction par excellence, sans savoir que je faisais un space opéra. C'est pour ça que j'ai envoyé mes bouquins à Grasset, Gallimard, et que je recevais des réponses aussitôt en disant « Mais non, ça ne nous intéresse pas » parce que j'ignorais totalement qu'il y avait un genre science-fiction, etc. Et donc, c'est après, une fois que j'ai été publié, que je me suis rendu compte. Pour moi, c'est une exploration entièrement libre. C'est des mondes, des planètes, et je n'étais pas compte de ce qui s'était passé avant et de tout ce qui avait été inventé avant. Et moi, je suis parti dans mon voyage avec mon cœur, avec mes mots. Et c'est après que je me suis rendu compte que j'étais un auteur de science-fiction. La définition est venue après, quand j'étais publié par une maison qui s'appelle La Talente, qui est une maison qui édite de la science-fiction. Je suis retrouvé dans une collection de science-fiction. Je me suis... Après, l'étiquette dont tu parles, elle te suit, malheureusement, et on a du mal à y échapper. Essayer de conquérir des publics nouveaux, c'est essayer de se décoller des étiquettes et de toujours faire les choses le plus éloigné possible des systèmes de pensée, je pense.
Une petite chose, tu as parlé de Ramana Maharshi, Arunachala,
j'ai fait le tour. Oui.
Il était toujours nu, habillé comme un bébé, parce qu'il n'a pu jamais se libérer de sa maman. Si tu les connais, ils ne vont pas comprendre. Mais...
Alors,
c'est un grand bébé, tu vois.
Est-ce que vous, public, alors, qu'en pensez-vous de cette histoire de la philosophie opposée à l'émotion brute? Est-ce que l'humain est irréductible à tout cela? Qui intervient? Oui. Allez-y. Non.
Allô?
Oui. Voilà, c'est bon.
Bonjour. Moi, j'avais une question. Lorsqu'on parle de fiction, de science-fiction, de ce qu'on peut explorer à travers ce genre fictionnel, historiquement, la science-fiction et le fantastique du genre la fantasy ont été amalgamés par les éditeurs comme justement un ensemble. Maintenant, on a réussi à faire une démarcation, mais il y a toujours... l'idée qu'à travers la science-fiction, on montre des choses fantastiques, on montre des choses irréelles. Donc moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que le genre science-fiction a de spécifique pour qu'on explore quelque chose qu'on ne peut pas explorer avec d'autres genres fantastiques? Merci.
Vas-y. Qui répond? Sylvie.
Bon, alors, vous abordez un des débats chers... aux universitaires et en général aux amateurs de ces littératures de genre. Donc il y a de multiples réponses et de multiples non-réponses. Pour ma part, la meilleure réponse, me semble-t-il, c'est de dire que la science-fiction, c'est le genre où en droit, une explication de ce qui se passe dans l'univers est possible, par opposition aux autres genres. C'est-à-dire que même si aucune explication aux choses bizarres qui se passent dans le monde n'est apportée, mais que, et là on est plutôt dans le niveau connotatif ou émotionnel, mais que l'impression générale qui se dégage de l'univers, c'est que si, disons, une méthode scientifique était appliquée, on pourrait tout expliquer, alors on est plutôt dans de la science-fiction, alors que dans le fantastique... Disons, oui, dans le fantastique, c'est plutôt, au contraire, l'idée qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la surnature et qui est de l'inexplicable. Voilà. Après, au niveau, disons, pragmatique des événements, par exemple, si on prend la télépathie, hein, ou des choses comme ça, ça peut être, en réalité, au niveau de la narration, des choses extrêmement proches. Mais finalement, ce qui distingue, à mon sens, la science-fiction du fantastique, c'est ce rapport à la méthodologie scientifique, en fait.
Si j'ai un petit... par rapport à ma pratique, et puis comme tu sais, je faisais les choses spontanément, et après j'ai réfléchi de pourquoi utiliser ce genre plus qu'un autre, finalement. Qu'est-ce que ça apporte par rapport à d'autres explorations? Et j'ai essayé de réfléchir et j'ai dégagé trois réponses, finalement. Enfin, trois points. Premièrement, un merveilleux voyage. Et ça, c'est déjà un point super important. C'est-à-dire qu'on convoque le lecteur pour un voyage extraordinaire, au sens où le définissait Jules Verne, un nouveau voyage extraordinaire. Donc déjà, on va décoller. Ce que me faisaient les mythologies quand j'étais enfant et que je les lisais, c'est que ça me décollait de mon réel et ça me projetait dans l'ailleurs. Et j'ai retrouvé ce même effet qu'on appelle l'effet vertige dans la science-fiction. Donc premier point pour moi important, c'est l'effet vertige, c'est-à-dire projeter et voyager. Le deuxième point, c'est déplacer le point de réflexion. C'est-à-dire que justement, avec cette liberté que permet le récit et le roman, on va pouvoir proposer des points de vue différents. Et donc amener un espace de réflexion au lecteur, c'est-à-dire le pousser à déplacer son point de vue sur un événement ou un autre. Et puis le troisième point que j'ai trouvé, c'est les interrogations fondamentales qu'on reprend finalement des mythologies. Je prends un exemple, le mythe de Gilgamesh, qui est une question sur l'immortalité. C'est une question qui est reposée par les livres de science-fiction. Donc j'ai l'impression que ces interrogations fondamentales qui agitent l'humanité depuis la nuit des temps, qui suis-je, où allons-nous, que faisons-nous, où sommes-nous, sont repris par la science-fiction simplement en ajoutant les éléments modernes que sont la technologie et ce genre de choses.
Ok, merci. Et
en pensant, ça me vient à la tête que la science-fiction se présente comme un art, la science se présente comme une réalité, mais la science est fiction. Le Big Bang, ça peut être un conte de fées. Toutes les théories scientifiques ont la qualité de que dans le temps futur, on va rigoler d'elles parce que l'être humain connaît les 1%, si vous voulez dire les 10%, les 1% de l'univers. Ça veut dire que 99% de l'univers est inconnu. Alors, avec le cerveau de gorille qu'il y en a encore, c'est très difficile de connaître l'univers. Donc, toute vérité scientifique est fiction. Alors, les écrivains de science-fiction prennent une soi-disant vérité scientifique, la mettent dans un livre et la développent vers toutes les possibilités. Alors, les écrivains de science-fiction sont scientifiques et les scientifiques sont de science-fiction. À mon avis, c'est tout le contraire.
Belle inversion, effectivement. On peut le voir comme ça. C'est dommage que Roland Lehoucq ne soit pas là aussi pour donner son point de vue. Mais effectivement, ça, on peut tout à fait le voir comme ça. D'autres questions, parce que le temps avance et j'aimerais bien que le public... Il y en a une là-bas et puis monsieur de devant.
Oui, alors je reçois la brillante démonstration de monsieur Jodorowsky qui a l'air de bien s'y connaître en zen.
Tu peux te lever pour que je te voie.
Je suis là.
Ah, il est là.
Je suis déjà debout. Voilà. Je suis tout au fond. J'ai bien reçu la brillante démonstration que vous avez fait vis-à-vis du zen. J'ai vu que vous avez bien lu là au-dessus, mais j'ai l'impression que ce zen est très en vogue dans notre Occident qui est empêtré dans les contradictions de la subjectivité, et c'est un grand succès parce qu'on est très tracassé par tout ça, on ne sait pas comment gérer cette subjectivité, et le fait de dire qu'on peut tout résoudre par le vide me semble très incohérent, presque contradictoire, puisque ça reviendra à reconnaître cette peur qu'on a à s'incarner, à se reconnaître dans les pensées qui nous constituent finalement. Et ça reviendra à reconnaître cette espèce d'impossibilité à gérer tout ça. Est-ce que ce n'est pas une espèce de capitulation aussi?
Je vais te dire, vous permettez? Tu as fait une toute petite erreur. Lao Tse n'est pas zen, c'est taoïste. Lao Tse, Chuang-Tzu et Liu Tseu, le vrai classique du vide parfait, ce sont les taoïstes principaux. Taoïsme n'est pas zen. Zen vient beaucoup plus après, non? Alors, à vis-à-vis des pensées, je vais te donner un exemple que tu vas me répondre de zen. Tu es d'accord?
Oui, sans souci.
Alors, mais tu es enfermé dans un bloc de granit, de pierre. Une personne est enfermée dans un bloc de pierre. Comment il sort?
Enfermé à la base.
Pierre, granit, comment il sort?
Immobile.
Et là, il ne sort pas. C'est ton cas, tu es immobile dans tes pensées. Je vais te montrer comment il sort. C'est comme ça qu'il sort. Parce que les blocs de pierre, c'est tes idées fixes qui te tiennent immobile. Alors, il y a un moment qu'il faut casser, ouvrir le mental. Ça, c'est le zen. Donc, tu ne donnes pas dans le vide, tu ne donnes pas vers ce que tu ne sais pas que tu es, mais que tu es. Tu es autant ce que tu es comme c'est ton mystère, ce que tu ne sais pas. Je vais vous dire qu'il n'y a ici une seule personne qui se connaisse. ni moi ni personne. On ne se connaît pas. Toujours il y a une surprise qui peut apparaître dans notre vie. Et on se dit, jamais j'aurais pu faire ça. Parce que personne ne se connaît. Voilà les scènes.
Alors, sortez de vos blocs de granit. Qui pose la prochaine question ? Monsieur ? Ah, pardon.
Merci.
Après, David interviendra encore. Et puis après, malheureusement, il faudra finir. Oui.
Ok. Allez-y. Moi, je vais revenir sur la première question qu'Hugo a posée, en fait, puisqu'il n'y a pas vraiment une réponse. Et en fait, sur l'idée que je m'en faisais en l'écoutant, sur ce que la science-fiction peut avoir de laboratoire pour des idées philosophiques. Et moi, à ce moment-là, j'ai pensé à une seule idée qui était des idées philosophiques qui ne sont pas développées en philosophie et qui pourraient l'être dans un roman de science-fiction ou un autre. Et j'ai pensé à un petit truc de morale, je sais pas, qui était Orson Scott Card quand il définit le xénocide. Et que par rapport à de la philosophie morale qui peut exister, bah, il prend des conditions qui n'existent pas aujourd'hui pour dire qu'est-ce qu'il faudrait penser à ce moment-là. Donc voilà, après, c'était une réflexion là-dessus sur les autres. Au monde de science-fiction et
oui. la science-fiction comme oui réservoir de possibilités
voilà.
philosophiques
et comme laboratoire comme
tout
essai comme,
oui,
comme expérience de pensée.
Oui, merci. Alors David et Sylvie, peut-être Sylvie, si tu veux répondre sur xénocide et puis
oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans notre réponse dans des détails concrets de la façon dont la science-fiction pouvait servir de laboratoire d'idées philosophiques, mais c'est effectivement tout à fait ma perspective, puisque j'ai par exemple commencé mon travail de recherche sur la notion de clonage. Hein, et donc le point de départ, donc, c'était vers les années 2000. L'idée, c'était tout simplement de dire, il y a quelques années, la première brebis, le premier mammifère a été cloné, et soudainement, les philosophes se réveillent qu'il pourrait y avoir un problème philosophique, moral à poser sur la question du clonage. Et moi, ce que je m'étais engagée à montrer, parce que ça me paraissait évident, en fait, très facile, à en faire la preuve, c'était de dire, mais en science-fiction, ça fait depuis 1930 que, par l'intermédiaire de multiples expériences de pensée à travers des romans ou des nouvelles, on explore les enjeux possibles de ce qui nous intéresse, nous, en réalité, à savoir le clonage reproductif humain. Et j'irai même plus loin, en fait. Moi, ce que j'essaye de défendre, c'est qu'il est nécessaire de lire de la science-fiction parce que, sur cette question précise, la plupart des gens n'avaient lu, et je pense qu'il y aurait une étude sociologique à faire très intéressante là-dessus, la quasi seule référence qui était faite pour essayer de comprendre les enjeux philosophiques, c'était « Le meilleur des mondes » d'Aldous Huxley, qui est un livre excellent. Mais il y a mille et un autres possibles qui, à mon sens, sont vraisemblablement plus réalistes en termes d'enjeux possibles du clonage. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Et une partie de mon travail, c'est de montrer soit comment on retrouve des idées philosophiques dans des œuvres de science-fiction, soit comment on peut faire dialoguer des expériences de pensée philosophique avec des expériences de pensée dans la science-fiction. Donc voilà. Après, j'aurais d'innombrables exemples à donner, mais apparemment,
oui,
le temps de parole est passé.
Je suis désolé de devoir comme ça les couper en plus, et puis de, sans doute, il y a des tas de gens qui veulent encore poser des questions. Est-ce que tu veux le mot de la fin, David, ou non ? Allez, vas-y, va, allez. Le mot de la fin.
Alors le mot de la fin, ça sera une petite phrase de Gaston Bachelard qui justement faisait sûrement pont entre la science et la fiction. Et dans un de ses textes, Gaston Bachelard parlait de la joie de la raideur. Alors on peut le prendre au sens sexuel du terme, évidemment, la joie de la raideur. C'est-à-dire que là, vous philosophez bien, vous vivez bien la joie de la raideur, mais c'était évidemment ce que nous avons vu aussi ici, c'est qu'il y avait à nous diviser, à travailler notre être, c'est-à-dire que ce soit par le zen, les mots ou le karaté, eh bien, à avoir une certaine discipline pour pouvoir ensuite se passer des autres disciplines ou pouvoir redevenir mou de temps en temps.
Ok. Bon, eh bien, écoutez, merci à tous. Vraiment, merci aux intervenants. Alejandro, Pierre, Sylvie, David.
Attends.
Allez, un tout dernier, peut-être un dernier mot. Allez, rendre.
Notre ami a parlé de la loi de la raideur. Et je parle aussi de la loi de la humidité.
Ok, merci. Merci à tous et bonne continuation pour le festival. Merci. Wow.